Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Ça y est, avec un peu de retard, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Rejoignez-nous vite si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Appelez-moi au 3921, toute l'équipe est là pour vous accueillir. Simon à la réalisation, Estelle, Théo au standard. Venez me parler de vous, de votre vie, de vos envies. D'ailleurs, savez-vous vraiment ce que vous voulez dans la vie? C'est vrai que souvent on sait plutôt ce qu'on ne veut pas, ou plus. Seulement quand on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, c'est difficile d'avancer. C'est comme si au restaurant, vous preniez la carte et que vous donniez au serveur la liste de tout ce que vous ne voulez pas prendre. Ou comme si en voiture, vous programmiez votre GPS pour aller en Île-de-France, quelque part. Quelle rue? Quelle ville? Quel numéro? On ne sait pas. Ça vous paraît très saugrenu de fonctionner comme ça, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, c'est souvent comme ça qu'on fait dans notre vie. Comment pouvons-nous demander quelque chose si nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment? Comment pouvons-nous atteindre un objectif si nous ne l'avons pas clairement défini? Être clair avec ce que l'on veut, se donner les moyens d'y arriver, voilà l'une des clés du bonheur dans tous les domaines. Alors venez me parler de vous, de votre vie, de vos objectifs ce soir. Partageons tout cela, et bien plus si vous le voulez. 3921 donc pour le téléphone, 739-21 pour les SMS, et par mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question du soir est la suivante, évidemment. Quel est votre plus bel objectif dans la vie? Quel est votre plus bel objectif? Répondez-moi si vous le souhaitez par SMS. 739-21, le mot nuit et votre réponse. Et pour démarrer cette émission, comme promis, c'est Dominique que je retrouve. Bonsoir à vous, Dominique.
Bonsoir, Sabine.
Merci d'être au rendez-vous. On avait fait connaissance hier soir et on n'avait pas eu le temps de terminer notre conversation.
Tout à fait, tout à fait.
Donc je vais me permettre de résumer pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, et bien sûr vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Dominique, vous avez une sœur jumelle, avec qui vous aviez des relations, on va reparler de ces relations, qui n'étaient pas forcément si fusionnelles que ça, si j'ai bien compris. En tout cas, pas forcément dans l'équilibre des deux côtés.
Tout à fait.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, depuis que votre maman est décédée, avec votre sœur, vous ne vous voyez plus parce que son mari vous a séparé.
Voilà.
Voilà, c'est un beau-frère qui a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir sur votre sœur.
Tout à fait.
Et vous voyez ce que je me disais hier quand on s'est quitté, vous me disiez que petite, votre sœur passait son temps à vous dire qu'elle avait l'impression d'être en osmose avec vous, qu'elle ressentait les choses et que vous, beaucoup moins.
Même après, tout le temps. Hein, jusqu'au dernier jour où je l'ai vue. Hein, oui, tout à fait. Elle, c'est ce qu'elle ressentait. Moi, j'étais peut-être, j'y repensais après, et j'étais peut-être plus indépendante.
C'est ça, c'est-à-dire que l'impression que ça m'a donnée, en y réfléchissant après coup, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même dans une dépendance et dans un schéma affectif, effectivement, de soumission, c'est-à-dire que c'était toujours, fallait qu'elle soit raccrochée à vous, quelque part.
Oui, tout à fait.
Et c'est, on peut se demander si elle n'a pas du coup été reproduire ce schéma-là avec son mari, c'est-à-dire qu'elle a eu besoin de se raccrocher à lui, et qu'elle est encore... comme si elle était dans votre ombre, sans être péjorative, hein, bien sûr, dans votre ombre au début, et qu'elle est dans la sienne maintenant, mais qu'elle ne s'autorise pas à être qui elle est elle-même.
Oui, alors ça, je lui ai souvent dit. Oui. Souvent, et souvenez-vous, quand je suis arrivée... une fois en Bretagne, elle me dit « Oh là là là, ça ne va pas du tout, mon mari est parti, ils ont de quoi se loger au bord de la mer, oh là mon Dieu, je suis là et tout. » Mais je dis « Mais écoute, laisse-le vivre sa vie et surtout vis la tienne. » Et elle n'entendait pas tout ça. Je me suis bien rendu compte qu'elle n'entendait pas tout ça. Et vos réflexions sont tout à fait pertinentes.
Comment s'est passée la naissance? Est-ce qu'on vous a raconté ça?
À la naissance, oui. Maman attendait un enfant, évidemment, et pas deux.
Ah, il n'y avait pas de d'échographie à l'époque?
Ah ben non, il y a plus de 60 ans, donc...
C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous demander votre âge hier. Donc, vous avez une voix tellement jeune, j'avais l'impression que vous en aviez à peine 40.
Non, merci. Eh bien non, j'en ai plus de 60. Et donc, voilà, donc ma sœur est arrivée en premier. Mmh. Et la sage-femme dit à maman, ne bougez pas, il y en a un deuxième. Ah, il y en a un deuxième. Voilà, ça c'est ce que j'ai entendu souvent.
Elle ne pouvait pas se rendre compte du tout, même je ne sais pas, j'ai jamais été enceinte de jumeaux, mais j'imagine qu'il y a une sacrée différence quand même dans le ventre.
Eh bien, écoutez, non. Non.
Ah oui, donc choc à l'arrivée, quoi.
Choc à l'arrivée. Voilà, choc pour tout le monde, hein, y compris mon grand frère qui avait 14 ans, il y avait une différence d'âge de 14 ans. Donc, c'était oui, un choc pour tout le monde.
Oui. je te ramène pas une sœur, mais deux cadeaux.
et d'ailleurs, oui, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais eu droit à un prénom masculin et féminin, entre parenthèses.
Ah oui, tiens, vous avez demandé à votre mère ?
Mon frère aimait beaucoup Dominique, et voilà, ça s'est passé comme ça.
Et votre sœur, elle a un prénom féminin ou mixte aussi ?
Féminin, Françoise, donc...
Féminin, d'accord.
Oh, mais François, Françoise, parce que le grand-père s'appelait François.
Ah oui, tiens, là aussi, il y a une dépendance.
Vous voyez ? C'est étrange, hein.
Ce qui est vraiment triste dans cette histoire, c'est que pour l'instant, en tout cas, vous n'arrivez pas à établir de lien avec lui à cause de cet homme, de ce beau-frère. Mais comment ça s'est passé au départ quand ils se sont rencontrés tous les deux ? Quels ont été vos rapports avec cet homme, vous ?
D'abord, je suis très tolérante. Et ensuite, je respecte les autres. Hein, voilà.
Mais bon, ça veut dire quoi ? Qu'il ne vous plaisait pas plus que ça ? Vous n'avez pas trouvé que c'était un mec bien pour elle ?
Ah. Ouais, je m'attendais. Bon, elle décide de quitter son mari. Bon, bah, très bien. Oui, je m'attendais à un autre personnage, disons. Mmh. Et voilà, j'étais un petit peu étonnée, mais enfin...
D'accord, j'avais pas compris hier que c'était un remariage.
Oui, oui, oui. Mmh. Un remariage il y a 30 ans. Hein.
D'accord.
Mmh. Et oui, je trouvais qu'il était étouffant. Je trouvais qu'il était étouffant, qu'il décidait... bon, j'ai toujours aimé recevoir. S'il avait décidé que personne ne viendrait, ben, personne ne venait. J'ai récupéré de justesse ma sœur pour le baptême de ma dernière, avant-dernière fille, parce qu'il avait décidé qu'il n'y serait pas. Enfin, voilà, que... Je ne connais même pas les raisons, je n'ai même pas demandé. Et j'ai dit à ma sœur, bah, écoute, il est absolument impensable que tu ne sois pas là pour le baptême.
Elle était la marraine, non ?
Non, elle n'était pas la marraine de cet enfant-là, puisque j'en ai eu 4 en tout. Enfin voilà, c'était... Et alors donc, pour finir, quand maman est décédée... Bon, ils se sont occupés de tout parce que, voilà, ils avaient la main un peu sur les comptes de maman. Mmh. Voilà, bon, écoutez, je pense pas que ça puisse rendre ma sœur, enfin, que toutes ces attitudes et tout ce qui a été fait rende heureuse ma sœur. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça. Et je ne lui en veux même pas du tout d'avoir... agit comme elle a agi, financièrement et tout, parce que, eh bien, au fond de moi, je suis intimement convaincue qu'en fait, mon beau-frère, très intéressé par tout, et toujours envieux de tout, voilà, plus ou moins encore guidé, mal guidé ma sœur dans toutes ces démarches qui n'étaient pas honnêtes vis-à-vis de mon frère et moi.
Ah, mais là, vous parlez d'héritage, là, de maman.
Ouais, mais mon frère et moi, on s'en fiche, mais vraiment, on s'en fiche. D'accord. Complètement. On a tous les deux on a ce qu'il faut, ça de rien. Et moi, j'avais surtout besoin de ma mère, c'est tout.
Bien sûr. Ouais.
Et donc, il se trouvait que quand j'étais au chevet de maman, les trois dernières semaines, on savait bien que ça allait être les derniers moments, et ma sœur partait assez loin pour le mariage de son fils. Et ma sœur me dit « Ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire. » Je dis « Écoute, l'essentiel est que l'une de nous deux soit là. Mais tu ne peux pas partir sans voir maman. » Donc on est arrivés tous les trois, après avoir vu le médecin, on est arrivés tous les trois auprès de maman. Et j'avais donc ma sœur d'un côté, le beau-frère assis au pied du lit assez loin, et puis moi de l'autre côté de maman. Et maman regardait ma sœur, mais un regard qui voulait dire ma pauvre fille, quoi. C'est je suis triste pour toi. Enfin,
elle savait, quoi.
Ouais. Et puis ensuite, elle a regardé mon beau-frère, mais un regard extrêmement noir et oula. Bon, d'accord. Et puis elle m'a regardée avec tendresse. Et ça, vraiment, j'y pense souvent. Donc, je vous dis, je suis intimement convaincue qu'en effet, elle ne veut pas déplaire à son mari, qu'elle ne peut pas être seule. Et oui, il y a sûrement une histoire de dépendance quelque part.
Est-ce qu'elle est en relation encore avec votre frère ?
Et mon frère est parti à l'autre bout du monde et non.
Non, non plus.
Non, moi, j'étais en relation avec mon frère, qui est décédé depuis. Mais non, ma sœur, non.
Et est-ce que vous savez si son mari fait le vide aussi au niveau des amis autour d'elle ?
Ah, mais les amis, et y compris ses trois enfants.
Ah oui, donc c'est beaucoup plus profond que ça encore.
J'avais trouvé ça, à l'époque, extrêmement cruel. Donc, il quitte son épouse et laisse les enfants. Je n'ai jamais osé en parler à personne, ni même à ma sœur, ni même à maman, mais j'avais trouvé ça cruel quand même, parce que c'était... Voilà. Et très, très vite, il fallait que les enfants de ma sœur se débrouillent, etc. Bon, ils ont fait de bonnes études, ils sont partis à droite, à gauche... Pour les écoles, ça l'arrangeait bien. Et financièrement, il tenait à ce que les enfants se débrouillent eux-mêmes. Hein. Donc, ils ont été étudiants, ont travaillé, ont assumé. Mais ça aussi, j'avais été un peu surprise, parce que ma sœur était très attachée à ses enfants. Enfin bon.
Oui, en même temps, elle est majeure et vaccinée, et je pense qu'elle y trouve son compte. C'est forcément d'une manière ou d'une autre.
Mais
ça, c'est toujours un peu ce qui fait mal quand on voit ça de l'extérieur. Mais oui. Si elle y reste, c'est qu'elle y trouve forcément quelque chose.
Voilà, une sorte de sécurité pour elle. Ça lui appartient. Mais en attendant, juste avant qu'il parte pour ce mariage, elle m'a dit, je dis, oh là là, mais la vie ne va plus être comme avant. Enfin, c'est... Oh là là, j'ose pas imaginer ce vide et tout. Et mon beau-frère a répliqué en disant « Ah bah alors là, depuis le temps qu'on supporte ta mère, je peux te garantir qu'à partir de maintenant, on va sûrement changer de vie. » Bon, parfait. Oh là, je me suis dit une parole en trop. Et ma sœur m'a appelée. Je lui ai passé un petit SMS lorsque maman s'est éteinte, et donc le lendemain, ma sœur m'appelle en me disant, écoute, pour les funérailles, tu seras de ton côté et de mon côté, tu resteras avec tes filles, et moi avec mon mari. Je suis d'accord, écoute, j'en profite pour te dire que mon cœur, ma porte, reste grands ouverts, et je suis là pour toi quand tu le voudras, mais j'ai respecté.
Hier soir, vous aviez mentionné aussi le fait que vous avez vu un appel en absence qui serait venu de son téléphone à elle, mais pas plus que ça, quoi.
Eh oui.
Ce qui pourrait vouloir dire qu'elle aimerait reprendre contact.
Voilà. Et quand j'ai rappelé, donc je suis tombée sur ce répondeur, j'ai donc entendu sa voix, puisque je pensais que c'était une cliente. Et quand j'ai des appels en absence, allez, hop, je rappelle, je cherche pas. Voilà. Et oui, j'ai rappelé deux ou trois fois, et après, je me suis dit, bon, ben, je préfère ne pas déranger, on ne sait jamais. Je ne veux pas créer la zizanie, et peut-être qu'à ce moment-là, elle avait besoin de me parler, et puis que maintenant, ça va, quoi. Enfin, je l'ai pris comme ça.
Oui, on sent que c'est tellement fragile que vous ne voulez pas forcer les choses, quoi.
Voilà, voilà, voilà. Et puis, je ne veux jamais forcer les choses. Oui. En tout. Voilà, ce qui peut se faire, se fait, et ça se fait dans un bon climat, mais forcer les choses ne peut pas aboutir à quelque chose d'heureux, quoi, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr. J'étais en train de réfléchir, je me dis que peut-être inconsciemment elle peut vous en vouloir aussi d'avoir été dépendante, vraiment avec de gros guillemets, de vous si longtemps. Ça peut avoir été pour elle une situation un peu inconfortable, et que c'est une manière aussi de dire, de toute façon, vraiment je schématise, hein, mais de toute façon j'ai plus besoin de toi parce que maintenant j'ai mon mari. Un peu comme si elle avait pu garder une petite rancœur ou une certaine jalousie de cette dépendance qu'elle a, de ce besoin qu'elle avait de vous, alors qu'elle a dû sentir que c'était moins réciproque, on va dire.
C'est pertinent aussi.
Il peut y avoir matière à réflexion, mais comme on n'a évidemment pas son point de vue à elle et son récit à elle, c'est difficile de savoir comment elle réfléchit, mais je me dis que c'est possible, parce qu'on a ça dans les relations entre des très bonnes amies. Il y a toujours dans une amitié quelqu'un qui est un petit peu dépendant de l'autre, l'un plus que l'autre. Et au bout d'un moment, ça peut virer à quelque chose de moins agréable dans les relations. La personne dépendante peut, même si c'est très inconscient, en vouloir à l'autre.
Je comprends bien.
Et finalement, il y a une petite vengeance là derrière qui est, bah, tu vois, maintenant j'ai plus besoin de toi et je te laisse de ton côté, quoi. Mais en même temps, c'est votre jumelle. Et c'est vrai qu'hier, on se disait, ça serait bien s'il y avait des jumelles qui voulaient bien nous appeler pour témoigner.
Oui.
Ou éventuellement laisser leur numéro pour que vous puissiez rentrer en contact pour vous parler, parce que je suis sûre que ça va résonner dans beaucoup de couples de jumeaux, de jumelles, votre histoire.
Et alors, justement, je me disais, parce que bon, ma soeur me manque, j'y pense très souvent, voilà, elle me manque, et je continue à vivre quand même, hein, j'en suis pas... voilà, parfois je suis un peu triste en me disant quand même, ma soeur... Ouais. Est-ce qu'elle va bien ? C'est souvent la question que je me pose. Est-ce qu'elle va bien ? Voilà, est-ce qu'elle va bien ? Je me disais, est-ce que ça vient du fait que nous sommes jumelles ? Est-ce que les jumeaux sont attachés l'un à l'autre comme ça, même s'il n'en paraît rien parfois, surtout quand on ne se ressemble pas ? Quand j'ai des jumeaux qui passent dans mon magasin, je les observe, hein, les tout petits, je les observe, les plus grands aussi, ceux qui se ressemblent, ceux qui ne se ressemblent pas. Ceux qui se ressemblent, je les vois quand même...
plus fusionnels, vous pensez ?
C'est ce que je ressens.
Oui.
Alors, un garçon, une fille, alors là, chacun vit sa vie. C'est drôle, ça. Mais petit, hein.
Oui, peut-être. Je vous ai dit hier, je ne suis pas du tout spécialiste des jumeaux, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup vu et entendu, c'est qu'il existe quand même un lien particulier. Quel que soit le degré de gémelléité, il y a quand même quelque chose qui est en plus d'une fratrie classique.
Et comment ça peut être autrement, enfin, à la fois on a toujours été côte à côte, en fait. Hein,
et en miroir, l'une de l'autre, évidemment.
Oui. Après, il y a eu toutes ces comparaisons qui ont été... alors là, je le dis vraiment aux parents de jumeaux, surtout, ne jamais laisser qui que ce soit être dans le jugement, être dans la comparaison. Il est petit, il est grand...
Oui, vous l'avez très bien dit hier soir. Voilà, elle est déjà plus grande, ou elle parle mieux, ou elle marche mieux.
Ah oui.
Et l'autre est plus petite, ça c'est insupportable, ça.
Ah oui. Ce qui fait que ma sœur, normalement, enfin, c'est vrai qu'elle est brillante. C'est vrai qu'elle est brillante, elle est. Je trouve qu'il y a. Enfin, c'est ce qui me. C'est ce qui me déstabilise parce qu'elle est très intelligente. Elle a une analyse extraordinaire, surtout en tout. Et je me dis, écoute, elle pouvait être aussi intelligente.
Bon, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle ne sont pas les mêmes.
Hein. Et bien sûr, et bien sûr. Et alors, du coup, on était censé. Elle était censée être plus douée que moi à l'école et moi un peu moins. Et je lui ai laissé la place de première tout le temps. Tout le temps.
Et pourquoi ?
Et quand il fallait mettre deux T, j'en mettais un. Quand il en fallait un, j'en mettais deux. Si bien que longtemps, j'ouvrais mon dictionnaire en me disant « Oh, faut-il deux T ?» ou « Ah, j'ouvrais les Becherelles. Il faut que j'apprenne par cœur cette règle. » Je la relisais 10 fois, mais ça ne rentrait pas.
Pourquoi vous avez fait ça ?
Parce que, en fait, je voulais faire mentir personne.
Ah, garder la bonne place quand vous avez attribué.
Ah. Donc, en effet, elle a fait de bonnes études. Moi, fallait me mettre tout de suite sur la voie du travail parce que, fallait vite trouver des solutions pour moi. Bon, je m'en suis bien sortie, en fait. Je m'en suis même bien sortie. Je suis contente. Et je suis vraiment contente de tout ce que j'ai fait. Je suis vraiment contente. Je suis contente de toutes mes expériences, voilà, vous voyez, ça va jusque là. Et donc je vis seule depuis plus de 20 ans, idem, mais enfin, Domi, quand est-ce que tu vas, elle me dit surtout ma sœur, elle m'appelle ma sœur, écoute ma sœur, mais enfin, quand est-ce que tu vas nous présenter quand même quelqu'un de bien pour toi et tout Et j'avais droit à ça à chaque fois, quoi. Alors, bonne année, bonne santé. Bon, alors, est-ce que cette année...
la caricature, quoi.
Ah là, eh ben non, je suis pas comme toi. Non, je me sens pas... Voilà, pour plein de raisons. J'avais pas trop le temps de m'en occuper. Parce que il faut du temps pour... d'après ce que je comprends, pour... Ben non, ça, elle n'est pas arrivée à...
Mais bon, pour en revenir à ce que je disais dans mon intro d'ailleurs, une fois qu'on a analysé le passé, votre objectif pour vous, c'est quoi maintenant par rapport à elle ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se produire ?
Eh bien écoutez, moi j'attends parce que comme je ne peux pas bouger, parce que je ne veux pas semer la zizanie dans son couple, eh bien j'attends, et le jour où elle viendra, bien sûr, je l'accueillerai. Et je continue à faire tout ce que j'ai à faire. Et là, il est question de ma retraite. Donc, dans 2, 3, 4 ans, à peu près, je m'y prépare. Enfin, voilà. Enfin, j'ai ce temps pour me préparer à envisager ceci, cela.
Une nouvelle étape de votre vie ?
Oui, ah oui, vraiment. Oui, ce sera autre chose. Pour l'instant, je suis tellement heureuse dans ce que je fais que c'est déjà beau, c'est déjà bien.
Je peux vous demander ce que c'est ? Parce que ça donne envie quand on vous entend comme ça. C'est rare les gens qui sont contents de leur boulot.
Ah bah oui, je chausse les enfants.
Vous faites quoi, pardon ?
J'ai un petit magasin je suis spécialiste dans la chaussure d'enfants.
Ah, je chausse, d'accord, j'avais pas compris le verbe. Je chausse les enfants, voilà, c'est mignon ça.
Je chausse les enfants, voilà. Et voilà, des plus petits jusqu'aux 43 pour les garçons, vous voyez. Donc,
Ah oui, c'est des grands enfants, là, 43.
Oui, mais ils ont parfois 12, 13 ans.
Et oui, c'est bien.
Et c'est passionnant.
Humainement, en tout cas, ça doit être sympa. Oui.
Et oui, et vraiment, j'ai des familles... je suis très, très contente.
Bah écoutez,
le temps passe, ouais. Et puis c'est déjà bien.
Redites-moi, depuis combien de temps, là, vous n'avez plus de ces nouvelles du tout ?
5 ans.
Ouais, 5 ans. Et ce coup de fil raccroché, c'était quand ?
C'était l'été dernier.
Donc ça fait 6-7 mois, quoi, ouais.
Ouais.
Avec cette interrogation, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'était voulu ? Voilà, on ne sait pas non plus. Hein.
Ouf, c'est quand même... Il faut quand même aller dans les contacts et arriver à piocher le contact pour faire sonner un téléphone.
Enfin, c'est vrai, mais il y a un doute. Il y a quand même un léger doute, on va dire. En tout cas, même si elle l'a fait volontairement, elle n'a pas été au bout de la démarche.
Eh oui.
Mais bon, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Effectivement, je crois que laissez la porte ouverte dans votre cœur et dans votre esprit. Et...
Voilà. 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 Et puis, si un jour j'ai une bonne surprise, eh bien, écoutez, voilà. Et puis, pour le reste, et puis, si je ne la revois pas, c'est que ça doit être comme ça. Mais en tout cas, c'était ma première question, quoi. Mais enfin, ouais, parfois, je me dis, oh, ma sœur, quand même. Oh. Je lui avais envoyé un petit mot. Au premier anniversaire du décès de maman, en disant déjà un an, comment vas-tu ? Pas eu de réponse.
J'aimerais bien savoir si on a des jumeaux ou des jumelles qui nous écoutent, si certains ont vécu une rupture à vie comme ça, ou si c'est plus fort que tout et que finalement il y a toujours une réconciliation. J'aimerais bien que ceux qui vivent ces histoires-là de jumeaux, de jumelles, là, nous appellent pour nous raconter ça, ce serait intéressant. Est-ce que finalement ce lien sera plus fort que le silence ou pas ?
Voilà, c'était ma question. Est-ce que vraiment, oui. Surtout quand j'ai tellement souvent entendu « Ah mais je savais que c'était difficile pour toi en ce moment » ou « Oh je ne m'inquiétais pas du tout, je savais que tout allait bien pour toi. » Ah bon ? Et c'était vrai.
Mais donc on pourrait logiquement se dire qu'elle est probablement plus en manque que vous.
Et c'est ce que disait maman.
Eh oui, c'est ça. Mm. Malgré tout. C'est paradoxal, mais ça pourrait être tout à fait plausible.
Mm. Et oui. Mm. Et c'est là que je me dis, oh quand même, c'est quand même dommage, parce que ce silence provoque... oui, c'est le silence et le silence... Et le silence étant le silence, même pas un petit mot, même pas quelques minutes pour lui apporter peut-être un soutien, un réconfort parfois, enfin vous voyez.
Oui.
Mais bon.
J'espère en tout cas qu'au moins elle est heureuse avec cet homme-là. Parce que le prix à payer me semble cher quand même. Hein.
Mais oui.
Oui.
Et oui. Et j'ai eu des mauvaises pensées il n'y a pas tellement longtemps, là, quand il a été question du Covid, et qu'on s'est rendu compte que les personnes fragiles, évidemment, étaient bien vulnérables. Et je me disais, oh là là, lui qui souffre du diabète, et de ci et de ça...
Un accident aussi vite arrivé.
Oh, si elle m'entend, ma sœur. Oui, un accident aussi vite arrivé.
On plaisante, bon. On met un peu de légèreté dans tout ça.
Voilà. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'aurai de ses nouvelles. Forcément, j'aurai de ses nouvelles.
J'y pensais. Je pense que si un jour, et je ne lui souhaite évidemment pas, elle est un coup de la vie, un coup dur de la vie, vous serez sa dernière personne de recours. C'est probable.
Bah oui.
C'est probable.
Bah oui.
Dominique, on va devoir se quitter parce qu'il va y avoir des infos.
Merci beaucoup.
Ce que je vous propose, c'est que si on a des jumeaux, des jumelles qui nous envoient des messages.
Ah, mais avec plaisir.
On vous transmettra leurs coordonnées.
Merci beaucoup.
Et ceux qui souhaitent passer à l'antenne, je les prendrai volontiers pour continuer à parler de ces rapports si particuliers qui existent entre ces enfants-là.
Merci beaucoup Sabine pour votre pertinence et toutes vos bonnes idées.
Merci à vous Dominique et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles surtout.
Merci.
Je vous embrasse.
D'accord. Moi aussi.
Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est l'heure des infos avec Sophie Tussaud.
L'objectif, c'est d'accélérer la vaccination. Je salue cette mobilisation absolument exceptionnelle.
Le coup d'envoi d'une campagne massive de vaccination en France, le gouvernement promet de mettre le paquet. Le pape entame demain son pèlerinage sur les terres d'Abraham en Irak. Et puis le PSG élimine Brest et va en huitième de finale de la Coupe de France.
Europe 1.
Bonsoir à tous. Le gouvernement veut mettre le paquet sur la vaccination et ce afin d'éviter de reconfiner. 220 000 personnes ont été vaccinées aujourd'hui en France. Un chiffre dont s'est réjoui ce soir Olivier Véran, des vaccinations en masse, sous l'œil des membres du gouvernement. Bonsoir Aurélie Herbemont. Alors, réel coup d'accélérateur ou coup de com'?
Eh bien, en tout cas, ça vaccine et il faut que ça se voie avec le gouvernement aux avant-postes. Olivier Véran sera demain dans le Nord et le Pas-de-Calais, la ministre des Armées dans un hôpital militaire du Val-de-Marne et la tournée ministérielle a commencé aujourd'hui avec le Premier ministre et le ministre de la Santé qui ont visité pas moins de 2 centres de vaccination dans l'Essonne cet après-midi où Jean Castex a assuré la promotion du coup d'accélérateur.
L'objectif pour les pouvoirs publics, c'est d'accélérer la vaccination qui doit nous permettre de gagner du temps précieux dans cette lutte contre la pandémie. Je salue cette mobilisation absolument exceptionnelle.
Une mobilisation possible car des doses là, il y en a. Des centaines de milliers de vaccins qui n'ont pas encore trouvé preneur, notamment parce que les soignants rechignent à se faire vacciner et parce que tous les médecins ne sont pas allés récupérer les doses prévues pour leurs patients. Le chef de l'État veut que les vaccins disponibles soient utilisés. Olivier Véran aussi. C'est pas Picsou qui veut des frigos pleins, dit un de ses proches. On est donc en pleine opération. Videz les frigos.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1 et des opérations de vaccination de masse qui arrivent un peu tard, selon Olivier Gacquer, le maire UDI de Béthune, alors que le Pas-de-Calais vit son premier week-end de reconfinement sur les 4 qui sont prévus.
C'est un rattrapage et pas un cadeau, hein. C'est pas une bonification en tant que telle. Nous avons vacciné depuis le début à peu près 3000 personnes en première injection. C'est un bassin de vie de 280 000 habitants. Voilà, dites-moi si c'est suffisant ou pas, moi je trouve que ça ne l'est pas. Il faut accélérer et donc c'est ce qu'on a dénoncé, c'est que nous sommes un peu parents pauvres. Alors c'est pour cela que les variants sont plus présents chez nous, qui se propagent plus vite, ce virus, je ne pense pas. Mais malgré tout, on a besoin d'un coup de main supplémentaire pour nous aider à mettre à l'abri nos plus fragiles. Donc on est très heureux, mais par contre, je souhaite que ce ne soit pas juste une opération éphémère du week-end. Je souhaite que ce soit durable et que ça puisse donc fonctionner à plein dans ce territoire pour l'ensemble de la population.
Le maire de Béthune, Olivier Gacquer, au micro européen de Maximilien Carlier. Une aide d'urgence pour les éleveurs durement touchés par la crise. L'État débloque 60 millions d'euros, annonce de Jean Castex en déplacement dans la Creuse ce matin. Aide qui sera versée à ceux qui ont gagné moins de 11 000 euros sur 2020. 18 000 exploitations sont concernées. À nouveau des violences ce soir près de Lyon, malgré les 200 policiers envoyés en renfort pour faire respecter l'ordre. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. 5 personnes ont été interpellées. Aux États-Unis, le plan de relance de Joe Biden franchit l'étape décisive du Sénat après des heures de débat. Il a approuvé le texte qui prévoit 1 900 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine frappée par la pandémie. Un plan dont le pays a désespérément besoin, a souligné le président américain. À la visite du pape en Irak, le souverain pontife a célébré en fin de journée sa première messe publique dans le pays, en l'église Saint-Joseph à Bagdad. Ce matin, il s'est entretenu avec le grand ayatollah Ali Sistani, qui a fait part de son engagement pour la paix et la sécurité des chrétiens d'Irak. À la suite de cette rencontre, le Premier ministre irakien a décidé de décréter le 6 mars désormais journée nationale de la tolérance et de la coexistence. Et demain sera la dernière journée du déplacement du souverain pontife en Irak avec le point d'orgue spirituel de son voyage, un pèlerinage sur les terres d'Abraham, ultime moment consacré aux chrétiens revenus s'installer dans les zones ravagées par le groupe État islamique en Irak. Notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
C'est un survol de la plaine de Ninive que s'apprête à faire le pape, surplomber en hélicoptère cette zone engloutie en quelques semaines par Daesh en 2014. Première étape de François, Mossoul, là où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat. Moment de courte prière au milieu des ruines et sous surveillance des forces spéciales avant de repartir pour Karakoche, une ville quasi intégralement peuplée de chrétiens. Là, François se retrouvera au milieu de fidèles en l'église de l'Immaculée Conception, entièrement rénovée, mais où des stigmates du passage des djihadistes sont encore visibles. Là où un fauteuil en bois spécialement sculpté pour l'occasion est déjà installé devant l'autel pour l'Angélus. Matinée chargée avant de revenir vers Erbil, où il terminera sa visite par une messe dans le stade de la ville. Nous serons loin des millions de personnes rassemblées lors de ses précédents voyages apostolique, seuls 10 000 fidèles pourront y assister pour respecter les contraintes sanitaires. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
La situation se tend encore au Sénégal. L'opposition appelle la population à descendre massivement dans la rue et à 3 jours de manifestations à compter de lundi. Un appel après plusieurs jours de violence opposant les forces de l'ordre et les groupes de jeunes qui réclament la libération de l'opposant Ousmane Sonko. On passe au sport, le football avec les 16e de finale de la Coupe de France. Le PSG se qualifie facilement pour les 8e après sa victoire sur Brest, Julien Froment.
Effectivement, soirée tranquille, soirée facile pour le Paris Saint-Germain face au Stade Brestois. Victoire 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé de retour en forme après son match de suspension. Et puis c'est l'Espagnol Pablo Sarabia qui a également inscrit un but pour le club de la capitale, Paris, qui repart de Bretagne sans blessé et avec le plein de confiance à 4 jours de son 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et un peu plus tôt, deux surprises, le Restart, club de 3e division, a éliminé Lens grâce à un but in extremis. Et Lorient, club de Ligue 1, a également été sorti, mais eux par les Auvergnats du Pouilly, équipe de 4e division. La météo, il va faire froid et le temps sera contrasté demain, Valérie Darmon.
Au programme, donc quelques brumes toujours sur le nord et des gelées marquées avant le retour du soleil dès son lever pour la journée. En revanche, au sud, le temps sera toujours un peu plus instable avec donc de l'instabilité pluvieuse, un temps humide qui pourrait s'étendre à tout le quart sud-est d'ici ce dimanche soir. Le ressenti au vent sera hivernal, entre 0 et moins 2 degrés au nord. En ce dimanche matin, elles s'accentueront encore, ces valeurs, en baisse hein, d'ailleurs pour l'après-midi, entre 6 en Lorraine et 14 à 15 près de la Méditerranée, en moyenne 4 degrés inférieurs au normal de saison.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 7 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Yeah. Europe 1. La Libre Antenne, Sabine Marin.
On se retrouve pour cette deuxième et dernière partie de notre Libre Antenne, de votre Libre Antenne. Vous savez que nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler si vous avez envie de parler. Ce soir, vous faites le 3921. Estelle et Théo sont au standard, ils attendent vos appels. Et puis pour réagir par SMS, intervenir, donner votre point de vue, un conseil ou simplement un mot gentil, vous pouvez faire le 73921 suivi du mot nuit et de votre message.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et ma question tout à l'heure était la suivante. Quel est votre plus bel objectif dans la vie? Alors je partage avec vous la réponse que Jacinthe m'a faite par SMS. Mon plus bel objectif est d'offrir de mon temps auprès des personnes en détresse et de leur faire don de ma présence sans jugement, avec beaucoup de bienveillance et de tolérance. C'est un bel objectif effectivement, Jacinthe. Je vous embrasse. Et c'est maintenant Sarah que j'accueille sur notre Libre Antenne. Bonsoir à vous, Sarah.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci. Je vous appelle ce soir parce que je voulais témoigner d'une situation.
Oui.
Je vous écoute assez régulièrement et je n'ai pas pour l'instant entendu quelque chose d'à peu près similaire.
Mmh.
Et peut-être aussi parce que j'avais tout simplement envie et besoin de parler.
Bien sûr, je comprends.
Voilà. Donc, je suis une maman seule. J'ai deux enfants, deux grands enfants de 18 et demi et de 17 ans, un fils et une fille. Et mon fils est en situation de handicap. Il rentre tous les jours à la maison. Il est dans une école spécialisée dans laquelle il se rend tous les jours. Il est bien entouré. Il a de grandes difficultés et ses perspectives de vie sont compliquées. Ses perspectives d'autonomie. Hein.
Il est né comme ça ?
Il est né comme ça. Il a fait un AVC au troisième trimestre de la grossesse. Et donc, ça s'est traduit par une hémiplégie. Une infirmité motrice cérébrale, donc une hémiplégie. Ça, c'est l'aspect purement de ce qu'on voit.
Physique,
oui. Oui, et c'est finalement pas le plus grave. Ce qui est beaucoup plus grave, ce sont les troubles massifs des apprentissages.
Mmh.
Et et une épilepsie pharmacorésistante qui est arrivée depuis quelques années là, et qui est en lien avec cette lésion cérébrale. Et donc, du coup, néanmoins, il a tout son discernement.
Oui.
Il a une grande sensibilité et il a la chance d'être heureusement bien entouré avec des gens qui parlent avec lesquels il parle beaucoup. Et donc, il évolue dans un milieu spécialisé, protégé et tant mieux. Et par à côté de mon fils, j'ai ma fille qui a 17 ans, qui est une jeune fille brillante, excessivement brillante, qui est en terminale, qui a des résultats brillants et qui, par ailleurs, a trouvé un petit travail dans une pizzeria, oui, à raison de quelques heures par semaine, et donc un salaire, hein, qui arrive à concilier les cours et son emploi. Et cette jeune fille, je parle d'elle comme ça, en disant cette jeune fille, pour prendre un peu de distance avec elle, parce que aussi adaptée qu'elle soit à l'extérieur, aussi socialement, c'est un leader positif dans une classe. Je n'ai que des compliments là concernant. C'est un tyran à la maison.
Ah, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde.
Voilà, et elle n'a que 17 ans.
Oui.
Et c'est un tyran. Et c'est un tyran avec moi, et ça l'est devenu aussi avec son frère. Et c'est très, très, très difficile parce que j'ai tout essayé. Je me suis rapprochée d'ailleurs d'une association de parents qui se retrouve avec des enfants qui ont ce profil-là. Parce que il existe, ça c'est vraiment en termes de témoignage, au cas où certains auditeurs écouteraient, au moins je ferai passer une information. Il existe un médecin pédopsychiatre à l'hôpital de Montpellier qui a fait ce constat d'enfants avec des comportements tyranniques et dont les parents étaient complètement dépassés. Et ce n'est pas des enfants rois, ce sont des enfants tyranniques. Le tyrannisme, c'est un comportement que les enfants peuvent avoir, souvent avec des enfants quand même qui présentent des troubles préexistants, des troubles divers. Et donc, ces enfants n'accèdent pas au suivi psychologique ou psychiatrique parce que c'est impossible, parce qu'ils mettent tout en échec, et je l'ai vécu avec ma fille. C'est-à-dire que à plusieurs reprises je me suis retrouvée à tenter de la faire je me suis retrouvée à deux reprises en urgence, aux urgences, et donc à deux reprises elle a été vue par une équipe.
Pour quelle raison êtes-vous retrouvée aux urgences?
Alors, je me suis retrouvée aux urgences une toute première fois, une toute première fois avant que la situation se dégringole en violence. La première fois pour une situation d'anxiété généralisée. Parce que la situation s'est dégradée lorsqu'elle est entrée en seconde. D'anxiété généralisée, elle avait développé une forme d'anxiété au lycée. J'ai rebondi. Elle a été prise en charge. Et donc, elle a été un peu. J'ai rebondi en parallèle en la changeant d'établissement, en la mettant dans un établissement plus protégé, un établissement privé. Elle a à peu près rebondi. Elle devait commencer parce qu'il y a eu un suivi psy dans le cadre d'une situation d'urgence qui après était envoyé. Alors, le jeune était orienté vers un suivi pérenne au quotidien, enfin, dans le quartier, etc. À partir de là, elle a tout lâché et elle s'est comportée de façon violente, de façon inadaptée, de façon avec nous, hein, rien qu'avec nous.
Alors justement, donc, quand vous dites nous, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes une maman seule, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé que malheureusement, j'ai déjà connu cette situation de comportemental avec le père de mes enfants, qui est un monsieur brillant aussi, qui a réussi, hein, qui est magistrat dans la vie et qui avec lequel dont je me suis séparée. J'ai la garde, il n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement et donc je suis séparée déjà depuis 7 ans. Et donc les enfants ne le voient pas parce que lui ne met rien en œuvre pour voir les enfants. C'est un monsieur qui était excessivement dysfonctionnant dans la sphère privée. La séparation a été excessivement dure. Mais lorsque j'ai pris la décision, eh bien, je n'ai jamais fait machine arrière parce que j'avais bien compris comment on m'avait bien expliqué. Donc, j'ai mis en œuvre. Moi, je suis assistante sociale de métier. Et à partir du moment où j'ai eu mes enfants, je n'ai plus travaillé et je me suis occupée d'eux et de monsieur aussi parce que vraiment c'était un enfant au quotidien. Et ça paraît complètement dingue ce que je dis, mais ça existe. Et donc ma fille présente effectivement des traits de caractère, de personnalité. Ça souvent il faut pas trop en parler parce que souvent les gens disent qu'elle elle fait des transferts, elle fait des voilà, enfin néanmoins c'est pas du mimétisme parce qu'on est séparés depuis très longtemps. Et
vous êtes séparés depuis longtemps, mais elle a quand même absorbé beaucoup de choses avant la séparation.
Je suis d'accord, néanmoins la chose étant que parfois c'est très déconcertant. Elle a autant les capacités que lui, elle présente un haut potentiel, par ailleurs, un très haut potentiel. Donc, elle est brillante dans le sens brillant, c'est-à-dire qu'elle a de bons, en plus elle a de bons résultats scolaires sans avoir à travailler du tout.
Oui, mais
du
vous tout, savez, on en parlait de ça hier ou avant-hier ou la semaine dernière avec quelqu'un. L'intelligence intellectuelle n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle.
Je suis complètement d'accord.
Et visiblement, il y a un gros blocage de ce côté-là. On a l'occasion d'en parler, mais elle a beau être la plus brillante du monde, ça ne veut pas dire que dans son cœur ça fonctionne bien.
Voilà. Et alors le problème est que moi, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout parce que je ne peux plus. Alors, la deuxième fois, l'année dernière, j'avais tenté de mettre en œuvre parce que j'avais compris qu'il fallait qu'elle s'éloigne. Donc, j'avais tenté de mettre en œuvre avant le premier confinement, le début du premier confinement. C'est cette année confinement qui a fait capoter beaucoup de projets, vous savez, dans les familles,
oui, bien sûr.
Dans les familles fragiles ou enfin bon. Et la deuxième fois, donc j'ai tenté de l'éloigner de la maison en la mettant en internat parce que ça me semblait être la seule solution. Elle s'est scarifiée. Et donc, du coup, j'ai réatterri aux urgences dans le même service. Et là, Ils ont fait, à partir de là, ils ont fait des rendez-vous par visio. Donc une ado par visio, ça fonctionne pas forcément. C'était les vacances, c'était le deuxième. Enfin voilà, c'est-à-dire que il y avait plus, c'était plus le Covid du tout début. Hein, c'était le Covid d'après. Ça fonctionnait pas, ils n'étaient pas au rendez-vous, etc. Donc il n'y a pas eu une prise en charge, selon moi, adaptée. Elle a été vue, elle est systématiquement vue par le prisme du handicap de son frère et d'une maman complètement, complètement dépressive, on va dire, et dépassée par voilà. Et donc elle manipule à sa façon. Je dis pas que c'est conscient, mais enfin néanmoins, le constat est toujours là. C'est sa souffrance, mais sa souffrance ne résout pas le fait que son comportement au quotidien est invivable.
Alors, est-ce que vous pouvez concrètement me donner quelques exemples de ce qu'elle vous fait vivre au quotidien ?
Alors, eh bien, ça peut, c'est très varié. Hein. J'en ai été à appeler la police, hein, quand même. Hein. Au quotidien, ça a été par rapport à son frère. Alors ça a été terrible à vivre. C'était elle sort de sa chambre et mon fils me parle. Elle lui dit « Tais-toi, tu sais rien faire, t'es inutile, tu sers à rien, dégage dans ta chambre. » Voilà. Sauf que elle conduit, elle a un travail. Donc imaginez un peu la violence des choses. Elle a plein d'amis, elle s'y sort, elle a une vie normale. Ça, je veux bien que ce soit normal. Je suis assez open pour accepter qu'elle... voilà. Mais son frère, lui, n'a pas d'amis, etc. Pas pour autant que... voilà. Elle peut ne pas lui parler du tout de toute une journée.
Et envers elle, vous?
Alors, avec moi, j'aurais plein d'exemples, là. Elle se pose devant moi, et puis, parce qu'elle n'est pas d'accord, et elle me dit, à vrai dire, en allant chez les autres, je réalise combien t'es dingue. Voilà comment elle me parle.
Elle est beaucoup dans la provoque, quoi.
Mais c'est pas une simple provocation, parce que c'est et puis elle est toujours à la limite de vouloir me frapper, à la limite de casser des choses.
Oui.
Alors elle s'est, l'autre jour par exemple, elle a fait venir un de ses amis qui était très gentil, adorable, à la maison, et là elle s'est montrée gentille avec son frère, par exemple, parce que bon, le lendemain elle était odieuse. Mais quand je dis odieuse, c'est pas possible, quoi. Elle dit des choses, tu sais pas parler, tu sais rien dire, enfin bon, voilà, c'est Et moi, là, j'en suis arrivée. Par exemple, là, j'ai dû déménager. Et je ne peux pas solliciter mon fils. Je ne peux pas le solliciter parce que, du fait de son handicap, pour faire des cartons, je ne peux pas.
Oui, bien sûr.
Mais elle, a priori, elle est en âge de, en plus. Elle travaille, elle est efficace.
Et elle ne veut pas, c'est ça?
Elle n'en a pas fait un seul. Même pas ceux de sa chambre.
Ça ressemble quand même beaucoup à une bonne grosse crise d'adolescence, hein, son histoire-là. Est-ce que vous n'êtes pas la seule qui me raconte ce genre de comportement?
Mais il faudrait mettre des caméras tellement c'est... Alors... Bien évidemment, parfois je me dis que s'il y avait l'autorité d'un papa à mes côtés, peut-être qu'elle s'autoriserait moins de choses.
Il y aurait peut-être plus de cadres, oui, effectivement.
Peut-être. Néanmoins, il n'y est pas, donc on fait avec. Mmh. Et son leitmotiv, c'est de toute façon, tu ne m'aimes pas, il n'y a que pour.
Alors, il y en a, voilà. Justement, je pense que ça serait bien d'en parler un petit peu quand même. Comment se fait-il, après la naissance d'un petit garçon qui a eu des problèmes, que vous avez eu un deuxième enfant si rapidement? C'était désiré?
Alors, j'étais une dame qui avait envie, enfin, j'ai jamais voulu d'une contraception. J'aurais aimé avoir une famille nombreuse. Et je suis tombée enceinte de ma fille une semaine et demie après l'annonce du handicap de mon fils.
Ah oui, donc c'était ce qu'on appelle un accident.
Oui et non, parce que j'avais pas pris de contraception, donc voilà. Et donc j'étais enceinte, j'étais enceinte. Et dans ma tête, j'avais mis du temps pour avoir mon fils. Et c'est ça allait de soi qu'il fallait que j'allais avoir cet enfant. Et en plus, mon fils était un bébé très 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 simple. Quand il y avait le handicap, il y a eu le tsunami du handicap, mais c'était un bébé adorable. C'était pas compliqué.
Et dans quel état d'esprit étiez-vous pendant la grossesse de votre fille?
J'étais dans une tristesse inouïe, dans une inquiétude inouïe.
Et bien voilà, j'imagine bien. Mais vous savez que pendant la grossesse d'une maman, un enfant absorbe toutes ces émotions-là?
Je sais bien tout ça, je sais bien, néanmoins on peut pas refaire l'histoire.
Non, je sais bien, il ne s'agit pas d'excuser, mais d'expliquer des choses.
Oui.
Moi, j'entends que cette petite fille, elle a vécu une grossesse avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, et c'est bien normal. Une fois de plus, ça n'est pas un jugement, c'est simplement un état des lieux. Qu'elle arrive ensuite dans une famille où il y a un père qui n'est quand même pas dans l'axe, de ce que j'en entends, avec un petit garçon qui, bien évidemment, accapare l'attention de maman, et une fois de plus, c'est normal, et tous les parents qui ont un enfant avec un handicap le disent aussi. Il est logique qu'on ait beaucoup plus d'attention, d'inquiétude et de présence pour l'enfant qui a besoin de nous plus que l'autre. Tout ça, ça génère des colères, des jalousies. Et tout ce que vous me dites à propos de votre fille, moi, donne le sentiment qu'elle est très très mal avec elle-même. Et qu'elle est remplie de colère. Elle est remplie de colère, cette jeune fille. Et qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas réglées par rapport à tout ça.
Mais le souci, c'est que... Je comprends tout. Je comprends tout, si vous voulez. Je comprends, mais elle ne veut pas consulter. Elle ne veut pas consulter. Donc, mon fils et moi, on consulte. Un psychologue, un thérapeute, voilà. Mais elle ne veut pas. Et elle nous impose, donc... Et donc, du coup, le souci, c'est que c'est un... vivable.
Alors, quand vous dites elle ne veut pas consulter, elle ne veut pas consulter qui?
Alors moi, je parce qu'elle sait qu'il faudrait qu'elle consulte. Parce que non, mais
attendez, de quoi on parle là? Vous parlez de consulter qui? Parce qu'il y a beaucoup de thérapies différentes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites elle ne veut pas voir qui?
Alors, de façon... elle ne veut pas se faire aider. D'une façon... Voilà, elle m'a dit, c'est tous des baltringues. Voilà. Et donc, du coup, je suis toujours dans l'espoir, lorsqu'elle va voir le médecin traitant, qu'il arrive à la convaincre que ce serait bien qu'elle soit orientée vers un psychologue ou avec une thérapie adaptée. Mais elle ne met rien en œuvre. Et je ne peux pas, bien sûr, la forcer. Le problème étant que là, j'en suis arrivée à un point où je ne peux plus la regarder. Parce qu'elle est... Alors, et que j'attends qu'une chose, et que je... Alors, bien évidemment, elle risque... Elle va poursuivre, en toute logique, des études supérieures prochainement. Mais au quotidien, là, ça monte, ça monte, ça monte, et je ne peux même plus la regarder. Elle souffre parce qu'elle ressent ma distance, parce que un jour c'est je t'aime, etc., etc., et le lendemain c'est C'est des mots atroces en me disant... c'est par exemple, elle achète des Twix, on va dire. Elle achète des Twix, elle les pose sur la table. Bon, ben nous, on voit des Twix. Mon fils, il passe, il voit des Twix. Il a envie d'un Twix. Mais elle nous saute dessus pour... Enfin, elle lui saute dessus pour pas qu'il mange un Twix. Donc, moi, bien évidemment, j'interviens quand même, parce qu'il y a des façons de faire, hein, quand même. Si elle les pose sur l'espace de vie commun, c'est qu'a priori, ils sont peut-être destinés en partie, on va dire, à la vie commune. Hein. Sinon, elle les garde dans sa chambre.
Hein. J'ai bien compris, Sarah. Vous pourriez décliner à l'infini tous les étangs de son comportement. Mais une fois de plus, elle est vraiment en souffrance. Et comme 99% des ados, elle ne veut pas voir un psy. C'est un grand classique aussi, ça. Le nombre de parents qui m'appellent désespérés en me disant « mon fils ou ma fille ne veut pas être accompagné », et c'est toujours une situation extrêmement compliquée. Est-ce que vous pourriez peut-être lui proposer des thérapies brèves ?
Elle ne veut rien savoir. Elle me dit « c'est toi la folle, c'est pas moi ».
Alors, vous pouvez lui dire en rigolant « je suis peut-être folle, mais toi tu souffres ». Parce que quand on souffre pas, on se comporte pas comme ça.
Mais oui, mais si elle se comporte comme ça, elle m'explique par A plus B que c'est nous qui générons son comportement. Eh ben, elle se dédouane toujours de toute responsabilité.
Dites-lui que peu importe, on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour avoir la paix. Donc il ne s'agit pas d'entrer dans un débat avec elle pour savoir qui a raison, qui a tort. Ok, c'est nous qui générons ça, en attendant le mal-être, c'est toi qui le portes. Et donc, tu as vraiment besoin de te faire accompagner. Proposez-lui des thérapies comme l'hypnose, qui sont des thérapies très courtes, qui sont beaucoup plus ludiques qu'une thérapie où elle a peut-être peur d'avoir à parler pendant des années. Proposez-lui des choses comme ça, pour qu'elle reprenne un peu les rênes de ses émotions. Et qu'elle évacue toute cette colère que j'entends là, à travers vous.
Parce que moi, je suis honnêtement, je suis à deux doigts de la mettre dans certains moments. Je sais que je n'ai pas le droit, j'ai le sens des responsabilités, mais je voudrais la mettre dehors et comment dire, je sais que je ne peux pas le faire. Mais
je crois, inconsciemment, c'est ce qu'elle cherche, comme si elle n'avait pas trouvé sa place, cette jeune fille, et qu'elle vous provoquait à l'extrême justement pour tester ça aussi. Donc c'est très compliqué ça. Mais ce que j'entends là, Sarah, c'est que c'est vous qui avez besoin d'aide et davantage que ce que vous avez.
Hein. Je me fais aider, mais alors là, j'ai adhéré à cette association. Mmh. Il existe à l'hôpital psychiatrique, là, Gérard Marchand à Toulouse, un groupe d'aide aux parents parce qu'ils ont considéré que comme ces enfants étaient inaccessibles aux thérapies, au soutien psy, aux médecins, eh bien, ils savaient aider les parents. Et donc, du coup, ils proposent, ils mettent en œuvre une méthode autour de la résistance non violente, parce que sinon c'est l'escalade, hein, et ça va très très loin. Et donc, ma fille va avoir 18 ans, j'ai rempli un questionnaire très précis, et je vais donc adhérer à ce groupe.
Ça fonctionne un peu comme un groupe de parole aussi ?
Oui, c'est un groupe collectif, d'accord. Mais avec un pédopsie, c'est une guidance parentale pour des parents qui ont ce type de CC à Montpellier, CC maintenant ici. L'association s'appelle REACT. Je profite de le dire au cas où certains auditeurs se retrouveraient confrontés à ce genre de difficultés. Mais c'est pas associatif, hein. C'est aussi public. Hein. Ouais. J'espère que ça va arriver vite de façon à ce que à pouvoir être soutenue par rapport à elle, parce que.
Oui, je crois que la première urgence c'est ça, mais la seconde c'est vraiment de la renvoyer dans son mal-être à elle. Ok, j'en suis responsable si ça t'amuse, mais en attendant, le mal-être, c'est toi qui le portes. Et c'est lourd à porter. Mmh. C'est un message qu'elle va finir par entendre, même si elle vous fait croire que c'est pas vrai, qu'elle n'entend pas. Elle a très probablement un problème de place, elle a un problème de colère, elle a un problème de légitimité par rapport à son frère, tout ça, ça se mélange. Elle a vraiment besoin d'aide, il faut qu'elle l'entende, quitte à lui répéter 500 fois s'il le faut. Il ne s'agit pas de vouloir avoir raison avec elle parce qu'elle est dans la provoque. Il s'agit simplement de lui faire passer le message.
Bien sûr.
Et vous, d'arriver à récupérer des forces pour tenir debout, parce que je sais à quel point c'est épuisant, cette situation-là, évidemment. Déjà, l'énergie que vous donnez à votre fils, plus ce que vous devez donner dans ce combat contre elle, il y a de quoi être vidé, hein, évidemment.
Disons que ce sont deux mondes qui ne coexistent plus du tout.
Oui, bien sûr.
Et j'enfile une casquette avec l'un.
Et une autre avec l'autre.
Une autre casquette avec l'autre. Et mes journées sont celles-ci. H24, 365 jours, toute l'année. Et c'est difficile. C'est à vrai dire, c'est super dur, quoi.
Mais je comprends. Est-ce que Sarah, si on a des mamans qui sont dans la même situation que vous et qui nous contactent, est-ce que vous souhaitez qu'on vous transmette les coordonnées? Est-ce que ça pourrait vous faire du bien d'échanger?
Oui, même si... Oui, peut-être, je ne sais même pas, parce que vous savez, il y a des jours où on est tellement au fond. Là, ce soir, j'arrive encore à discuter, mais il y a des jours où on est tellement au fond et on a des visions tellement noires de son enfant parce qu'il nous a fait vivre des choses tellement dures qu'on ne peut même plus parler de son enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus être heureuse, être fière, être heureuse, parce que moi, la seule chose qu'on me dit, c'est « Vous vous rendez compte, c'est exceptionnel, elle a commencé à travailler à 16 ans et demi, elle va avoir son bac avec mention. » La seule chose qu'on me dit, c'est ça, quoi.
Mais c'est normal, c'est la vitrine, ça. C'est l'extérieur.
Ça, c'est... Voilà. Et il y a des fois où on ne peut plus... voilà, mais bon, néanmoins, bien sûr que vous pouvez communiquer mon numéro de téléphone.
Après, vous êtes libre c'est l'inverse qu'on fera, c'est qu'on vous communiquera les numéros de téléphone. Comme ça, vous avez la main.
D'accord.
Si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et puis, les soirs où vous n'avez pas envie de parler, vous ne parlez pas. Et puis, les soirs où vous en avez envie, ben, vous aurez peut-être des gens qui sont dans des situations similaires ou pas d'ailleurs, mais qui auront envie d'échanger avec vous. Et parce que ça fait du bien d'en parler, vous l'avez dit vous-même.
Oui, en plus. Vous savez, le handicap, la séparation, les violences conjugales, tout ça, ça isole.
Bien
ça
sûr.
Isole, et donc du coup, puis quand un ado se comporte comme ça, ben, ça isole encore plus, quoi. Donc du coup, finalement, ben, je suis isolée, très très isolée, et ma vie tourne autour de ces deux enfants, avec des besoins très particuliers.
Très différents aussi, évidemment, bien sûr.
Très très différents. Et là, c'est compliqué à gérer.
Ouais, voilà. J'entends tout ça, Sarah. Je vous souhaite plein de courage.
Je vous remercie de m'avoir écoutée.
Et tenez bon, rien ne dure, vous savez. Elle va grandir vite et partir aussi vivre sa vie. Les choses évoluent. Chaque jour.
Ouais.
Et puis elle va finir par comprendre que vous allez voir aussi avec la maturité... qu'elle a vraiment quelque chose à nettoyer chez elle qui est très profond. Là. Il y a une telle colère qu'il faut que ça sorte tout ça. Mais pas sur vous, évidemment. Mais elle le comprendra. Le problème, c'est d'avoir la patience et le courage d'attendre le moment où elle va avoir cette maturité-là, émotionnelle.
Moi, je veux juste essayer de me protéger le plus possible.
Bien sûr.
Pour continuer d'aimer, vous comprenez ?
Exactement, je comprends tout à fait.
Des fois, je doute. C'est horrible de dire ça, mais des fois, je doute.
Mais je comprends. L'épuisement fait ça aussi, c'est normal.
Je vous remercie, Sabine.
Prenez bien soin de vous, ça.
Prenez soin de vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Des rues où je traîne toujours. Ces instants trop courts, le Rhône ou la Seine, Rhin. quotidienne, comme des dizaines d'amants maladroits. On gravait les mêmes stupides rengaines, les mêmes soupirs aux mêmes endroits. Seuls qui comprennent, qui sachent où ça mène. Fontaine, dites-moi, vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous vu s'approcher, pencher sur vos reflets saphir, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs.
Cherchez bien.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Un jour me reviennent le bruit de tes pas. Je donnerai tout Göttingen, toutes les Suzanne de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras. Je donnerai tout Göttingen, Suzanne de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras.
Peuple des Fontaines, c'était Francis Cabrel.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Nicole que j'accueille maintenant avec plaisir sur notre libre antenne. Bonsoir Nicole.
Bonsoir Sabine, merci beaucoup de prendre mon appel.
Avec plaisir.
Je vous appelle ce soir parce que je suis, je dirais, accro au sucré. Un point qui me dérange alors que je prends soin de moi dans beaucoup de domaines. Mmh. Et là, j'arrive pas à être raisonnable dans les sucreries, les desserts, les pâtisseries, les biscuits, les chocolats, les crèmes, les
alors,
yaourts.
Est-ce que vous êtes plutôt du genre à manger trop ou à grignoter entre les repas?
Pas grignoter entre les repas, non.
Non, ça non?
Non, non, enfin, non, c'est plutôt les desserts, quoi.
Les desserts.
Les desserts, oui. Mais vraiment, je ne suis pas raisonnable. Et pourtant, ça ne se voit pas dans mon poids, vraiment, on ne peut pas le deviner. Mais moi, ça me dérange parce que je sais combien c'est un poison, combien c'est pas bon pour l'organisme. Et du coup, je suis très déçue de moi. Vraiment, je n'ai pas de volonté. Quoi.
Alors, oh, attendez, ce n'est pas si simple. Vous savez, notre cerveau, il est coupé en deux. Schématiquement, à gauche, vous avez une partie consciente, la partie intellectuelle qui gère notamment la volonté.
Oui.
À droite, vous avez une partie inconsciente, qui est la partie émotionnelle. La partie consciente, c'est l'intellectuel, l'intellect, si vous voulez. Celui qui gère la volonté. À droite, vous avez l'inconscient qui gère les émotions. Enfin, qui est géré par les émotions, plutôt.
Oui.
Eh bien, sachez que la partie consciente ne gère que 15% de ce que nous sommes. Donc, même debout, sur ces petites pattes arrière, la volonté, ça n'est que 15%.
D'accord.
Parce qu'à chaque fois qu'on a un comportement qui nous paraît inapproprié, comme c'est le cas en l'occurrence, c'est pas consciemment que vous le faites. Parce que consciemment, vous vous dites, je voudrais pas faire ça. C'est le côté, c'est plus fort que moi.
Oui.
Et quand on dit « c'est plus fort que moi », qui est-ce qui est plus fort que moi? C'est une partie de moi qui est gérée par mon inconscient.
C'est ça.
Et ça sert à rien d'être en colère. Souvent, j'ai des femmes qui me disent « ah, je déteste cette partie de moi qui me fait, pardon du mot, mais bouffer ». Parce que c'est pas manger, c'est vraiment se remplir, quoi. C'est vraiment bouffer.
Oui.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie de vous, si elle vous fait faire ça, c'est qu'elle a une raison.
Oui, voilà, je me dis que ça ne sert à rien de me discipliner parce que ça dure 2 jours et pas plus, et qu'il y a une émotion en dessous.
Eh bien voilà, c'est la conséquence, c'est pas la cause.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et donc la conséquence, ouais. Alors après ça peut être des choses très très simples. Des fois, quand on est petit, on est élevé par, vous savez, une maman, une grand-maman qui vous dit, bah tiens, t'as été sage, voilà un bonbon.
Oui.
T'as une bonne note, voilà un gâteau.
Oui.
Tu t'ennuies, bah tiens, mange un chocolat. Et inconsciemment, on a pu confondre la nourriture, qui est une énergie,
oui,
avec une émotion.
Oui.
Donc déjà, oui, déjà c'est une rééducation à faire de cette partie émotionnelle.
C'est vrai.
Et puis, d'autres, il faut savoir aussi que sur un plan purement physique, là, vous le savez, le sucre déclenche dans le cerveau de la dopamine.
Oui.
C'est la même chose que c'est une récompense pour le cerveau.
C'est ça.
Et donc, plus il en a, plus il est content. Et plus il est content, plus il en veut.
Oui, c'est ça, franchement. Oui, je m'en rends compte, en effet.
Et oui.
C'est vrai. Et oui. Bon,
voilà. Et donc, la volonté n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Parce que s'il suffisait de volonté pour arrêter de fumer, pour arrêter de manger du sucre, du chocolat, des choses comme ça, ça serait. Oui. Il suffirait de se dire, je veux et j'arrête.
Oui.
Si on n'y arrive pas, c'est que d'abord, il y a cette addiction physique et ce système de récompense qui revient évidemment tout le temps.
Oui.
Et puis, il y a cette part inconsciente de vous qui est persuadée que ça vous fait du bien. Que si cette partie inconsciente a enregistré que on me donne du sucre parce que j'ai été sage ou parce que j'ai une bonne note ou parce qu'on veut me faire plaisir, alors elle est persuadée que ça vous fait du bien.
Oui, c'est ça. Pourtant, j'étais élevée dans un milieu assez rigide où il n'y avait pas ce système de récompense avec de la nourriture.
Ça peut être aussi, quelquefois, un truc tout simple. On a vécu une histoire, un premier chagrin d'amour et puis pour se consoler, on a mangé du chocolat toute la nuit.
Oui.
Et ça nous a fait du bien, entendons-nous bien, quelques instants seulement. Parce que
c'est ça.
Et bien, l'inconscient a enregistré, ok, chagrin, émotion difficile, chocolat.
Oui.
Et donc, il n'est pas là pour juger ou pour réfléchir aux conséquences, il est là pour trouver une solution qui marche.
Oui.
Et si ça a marché, ça colle comme du velcro.
Oui.
Et donc, à chaque fois qu'il y aurait une émotion un petit peu difficile, je m'ennuie, je suis fatiguée, je suis stressée. L'inconscient, la solution, c'est le chocolat.
C'est vrai.
Et c'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps, vous savez.
C'est ça.
Donc, sans vouloir, en disant « Ah, j'ai pas de volonté », ça sert pas à grand-chose.
D'accord.
Déjà, ça, on va l'enlever. Hein.
Bon, je vais ôter cette idée-là.
Et puis, une fois de plus, être très bienveillant envers soi-même en se disant que la partie de soi qui nous pousse, quand on dit c'est plus fort que moi, cette petite partie-là qui vous pousse, c'est pas un ennemi. C'est pas quelqu'un qui a une kalachnikov sur votre tempe en vous disant « Allez, bouffe, 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 bouffe ».
Oui.
Non, c'est une partie de vous qui pense que c'est une solution sympa.
C'est ça.
Et donc, il faut aller négocier avec cette partie-là, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, simplement.
Oui, c'est ça. Donc, l'idée, ce serait de me dire que ce sucre n'est pas une vraie bonne solution.
Bien sûr que non. C'est comme les gens qui viennent arrêter de fumer, qui me disent, mais vous comprenez, fumer, ça me calme. Ah bon? La nicotine n'a jamais calmé qui que ce soit. C'est pareil, c'est une croyance. On se dit que ça nous calme. Alors, ça nous calme, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce que vous avez essayé pour vous calmer là-dessus?
Après quelques jours où j'en ai mangé trop, ça s'apaise pendant 2 jours. Je me dis, ah, ça y est, c'est gagné, c'est tout. Mais ça revient, quoi.
Et puisque ça ne se voit pas, donc visiblement, vous n'avez pas de problème de poids, en quoi ça vous dérange? La santé?
Oui, parce que j'ai déjà quand même vu pas mal d'émissions à la TV. On montre que c'est vraiment un vrai poison, le sucre, quoi.
Est-ce que vous avez vu cette extraordinaire émission de Michel Simès et d'Adriana Carambeu sur les pouvoirs du corps humain, consacrée au sucre?
Non, pas celle-là, non.
Ah, je pense que ça doit se trouver sur Internet. C'était il y a au moins 2 ans.
Oui.
Et c'était vraiment une émission exceptionnelle sur le sucre.
Oh, mais je vais essayer de la rattraper.
Oui, je pense qu'on la trouve encore sur Internet, probablement.
D'accord, oui.
Probablement. Elle était très instructive. Moi, je sais que ça m'a passionnée, vraiment.
D'accord.
Mais en même temps, tout ça, ça va parler à votre partie intellectuelle.
Oui.
Qui va comprendre beaucoup de choses. Mais il va être intéressant aussi de bien expliquer et de vous rappeler chaque jour ce que vous venez de me dire là, à savoir, c'est un poison pour mon corps, pour mon sang, pour ma santé, c'est un poison.
Oui, oui, c'est ça. Oui, et je me demandais si un peu d'hypnose ou de l'hypnose ou du EMDR pourrait m'aider à ça.
L'hypnose fonctionne très bien pour ce genre d'addiction, bien sûr.
C'est ça.
Justement parce qu'on va négocier avec cette partie-là de vous.
Oui.
Et on va négocier, quand je dis négocier, c'est vraiment faire une proposition. Parce que si on enlève tout, ça fait un gros vide. Il faut arriver à négocier les choses en douceur.
C'est ça.
Et arriver à se dire à soi-même, ah, voilà, maintenant je vais m'autoriser peut-être au début la moitié. Et puis je vais, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, mais qui soit en même temps bon pour ma santé?
Peut-être
des fruits secs.
Oui.
Peut-être des bonnes tisanes, des choses qui me font plaisir,
qui
sont bonnes au goût, mais qui sont en même temps bonnes pour ma santé. Jusqu'à ce que vraiment cette partie de vous comprenne que vous faire du bien, c'est pas avec du sucre que vous faites du bien, c'est un mensonge.
C'est vrai, c'est vrai.
Le sucre, pour le coup, est un ennemi qui a un masque et qui vous fait croire que c'est un copain.
Oui, c'est vrai, parce qu'au moment même, ça fait plaisir, hein, une latte de chocolat.
Mais oui, mais attendez, Nicole, vous connaissez beaucoup de copains qui veulent votre mort, vous ?
Non.
Eh ben oui.
Non, c'est sûr.
Et représentez-vous tout ce qui est sucré comme ça, pas comme un personnage qui est simplement un manipulateur.
Oui.
Qui veut vous faire croire qu'il vous fait du bien, alors qu'en fait, pas du tout.
Oui.
Et que ça n'est pas du tout une récompense, ça n'est pas du tout quelque chose de bon pour vous.
Mm-hmm.
Alors c'est toujours pareil, après c'est une question de curseur. Se faire du bien, une fois par jour, se prendre 2 carrés de chocolat, si vraiment ça nous fait plaisir, c'est important aussi pour le moral.
Oui, c'est ça. Je me dis que quand j'essaie de négocier avec moi-même, je ne me dis jamais je vais tout supprimer parce que ça c'est pas possible. Moi, j'aime bien un petit goût sucré dans la bouche, mais ça c'est normal. Mais c'est quand ça devient trop, quoi.
Et puis alors, votre petit accent me fait penser que chez vous il y a des bons chocolats en plus.
Hein.
Je suis une grande fan des chocolats belges aussi.
Mais donc non, c'est la quantité, ce sont les proportions, quoi, qui sont démesurées, voilà.
Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, une fois qu'on s'est dit tout ça, des séances d'hypnose pourraient vous faire le plus grand bien.
Oui,
et
voilà.
Et c'est assez rapide, hein. Enfin, je sais que ce genre de problème, ça se traite en une à deux séances. Hein.
C'est ça. Et donc, je pensais, moi, que c'était plutôt aller voir quelle est l'émotion qui s'exprime quand ce besoin de sucré est là.
Alors, j'ai un petit truc à vous donner pour ça. Si vous avez envie, avant d'aller travailler en hypnose, à chaque fois que vous avez une pulsion de sucre, chocolat, gâteau, etc.
Oui.
Dédiez-la à quelqu'un. Spontanément, dites-vous, ben voilà, je dédie ce sucre-là à mon père, ma mère, mon frère, mon mari, etc., etc. Juste pour voir ce qui vient.
Oui.
Et quelquefois, c'est très surprenant comme travail. Et j'ai rencontré des gens qui, en faisant ça, ont arrêté quasiment tout seul en quelques jours.
Mais j'allais dire, ça c'est vraiment la solution, ça. Oui.
Parce que quelquefois, c'est très perturbant et ça peut être très révélateur.
Oui. C'est vrai qu'on n'a pas envie de dédier un poison à quelqu'un.
Et puis, ce n'est pas que ça. D'abord, ça détourne l'attention.
Oui, ah oui.
Et puis, ça peut révéler des choses. Quelle est l'émotion que j'essaie de recouvrir avec ce sucre-là?
Oui.
Et pourquoi d'un seul coup, ça m'a fait penser à papa, maman, etc. ou quelqu'un d'autre.
Mm-hmm. Oui, oui.
C'est un petit exercice que je donne régulièrement ça, à mes patients et c'est très intéressant à faire.
Mm-hmm. En effet.
Dédier simplement ce sucre, on va globaliser en disant sucre, à quelqu'un. Et laissez faire ce qui vient, parce que vous n'allez pas pouvoir l'inventer. C'est forcément votre inconscient qui va s'exprimer à ce moment-là.
C'est ça. Parce que je m'étais dit, je vais mettre toutes les sucreries à la cave ou bien dans ma voiture.
Ça, c'est déclarer une guerre contre vous-même. Et comme c'est vous-même, l'autre partie, ça ne peut pas fonctionner.
C'est vrai, tout à fait.
Comme c'est une partie de vous, si vous êtes en guerre contre une partie de vous,
oui.
Il y a forcément une partie qui perd.
C'est vrai.
Et c'est inacceptable.
D'accord. Parce que comme je suis quelqu'un de volontaire, enfin, quand je veux et je fonce. Tandis qu'ici, j'ai pas l'impression que je veux vraiment, quoi. Donc c'est difficile d'arrêter parce que je veux pas vraiment, je crois.
C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux faire une bonne alliance entre les différentes parties de vous qui sont pas d'accord entre elles que tenter une guerre.
Tout à fait.
Parce que le but final, c'est quand même que vous soyez en bonne santé.
Tout à fait.
Et donc ça, sur cet objectif-là, vos deux parties opposées peuvent se retrouver.
Oui, en effet.
En même temps, arriver effectivement à se dire, mais je peux me faire plaisir quand je ne suis plus dans un besoin, mais dans une envie.
Oui, c'est ça. Oui.
Si j'ai juste envie d'un carré de chocolat ou d'un gâteau de temps en temps, d'aller dans un salon de thé avec une copine et me faire un bon gâteau, il n'y a aucun souci là-dessus. Là où ça devient compliqué, c'est quand ça devient un besoin.
Oui, c'est ça. Parce qu'une fois que j'ai un goût sucré en bouche, ça la déferlante, c'est parti, quoi.
Mais on le sait, ça, c'est le shoot de dopamine pour le cerveau, ça.
Oui, c'est vrai. Donc, vous m'éclairez bien.
Là aussi, d'en prendre conscience, ça aide, ça peut changer les choses.
Oui, si.
Et puis, il y a de très bons hypnos en Belgique.
Oui, c'est vrai. Je vais faire ça. Plus que du EMDR, je crois.
C'est bah, pas... Le EMDR, on peut s'en servir pour beaucoup de choses à partir du moment où on sait bien s'en servir. Mais là, pour ça, il oui, faut voir ce qui peut remonter. Mais je pense que l'hypnose suffira largement.
Oui,
hein.
oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que vous avez une sœur ou des sœurs?
Écoutez, pardon.
Une sœur, pardon. Oui, c'est moi qui bafouille un peu à cette heure-là. J'ai du mal.
Non. Une sœur?
Oui.
Oui, j'ai une sœur.
Est-ce qu'elle fonctionne comme ça aussi, elle?
Non.
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 D'accord. Non. Donc, ça ne semble pas être un schéma familial chez vous, c'est autre chose?
Non, pas... Non.
C'est
non,
autre
non.
chose, ouais.
Oui. Oui, oui. Oui, je crois que c'est propre à moi, quoi, oui.
Oui, donc ça peut tout à fait être lié à des choses, après, émotionnellement, qui se sont passées à l'adolescence ou quand vous étiez jeune femme.
Oui.
Et où une partie de vous a trouvé que bah, le sucre, c'était une sacrée récompense ou une sacrée compensation, quoi.
Oui, compensation, oui, c'est vrai. Oui.
Mais c'est amusant.
Mais vous m'éclairez bien.
C'est amusant comme les gens qui ont une... C'est une addiction, que ce soit une addiction au tabac ou au sucre, ont toujours cette impression que ça leur fait du bien.
Mais oui, c'est ça.
Et pourtant, ce sont des gens suffisamment intelligents pour comprendre où est l'ennemi dans la vie. Mais là, non. C'est comme si on se mentait à soi-même en permanence.
C'est vrai, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Intellectuellement, je sais, mais affectivement, ou je ne sais pas comment il faut dire, ça ne va pas.
Émotionnellement, la petite partie dit « je m'en fous ».
Oui, oui, tout à fait.
Sauf que quand on grandit, on aime bien reprendre les rênes aussi de ça et pas laisser la petite partie prendre le dessus.
Exact, vraiment.
C'est aussi ça,
vraiment.
Être adulte.
Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment le désir que ça change et de travailler là-dessus. Donc, je pense que je vais... me diriger vers l'hypnose parce que j'ai envie de sortir de ça, c'est trop bête de se bousiller, de s'abîmer, quoi.
Bah, est-ce que vous avez déjà eu des alertes?
Non, non.
Je veux dire, pas de non. cholestérol, pas de problème de santé, de non. cardiaque ou des choses comme ça, non?
Non, non, rien du tout, rien du tout. Mais je sais que malgré tout, c'est pas bon, quoi. C'est nocif, quoi, et rien à faire.
Mais quelquefois, on a cette prise de conscience quand d'un seul coup, il y a une petite alerte, on se dit, oulala.
Oui,
finalement, mon copain le sucre, c'est pas mon copain du tout, quoi.
Non, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Et puis, au final, il y a quand même aussi plus de variété, de bon goût dans le salé, plus que dans le sucré, je trouve. Parce qu'au final, c'est toujours la même chose, le goût du sucré. Tandis que dans le salé, il y a
tellement
de bonnes choses.
Il y a Emmanuel qui envoie un petit texto rigolo en disant « Le vrai problème, c'est quand votre moitié vous propose systématiquement un morceau de chocolat alors que vous n'y pensiez même pas ».
Mais oui, ça arrive, ou bien maintenant les fêtes de Pâques.
Ouais.
Oui, ou bien les fêtes de Pâques qui vont approcher. Oh là là, je vais recevoir sans doute des petits sachets de Pâques, et puis pouf. Là, c'est le combat.
Pas le combat, la réconciliation, quand
oui,
vous verrez,
oui,
justement.
C'est
ça que vous avez intégré.
Oui.
Et quand
c'est
on arrive à cette
raison.
Réconciliation, il n'y a plus besoin de se battre, ça va tout seul.
C'est vrai.
On se
c'est
fait du bien, et juste du bien.
Oui, c'est juste. C'est
d'accord, vrai. Nicole?
Oui, ok, merci beaucoup Sabine.
Avec grand plaisir.
Un tout grand merci. Merci Sabine.
Et je vous embrasse, oui. Et je fais des bisous à tous les Belges qui nous écoutent et que j'adore, ils le savent.
Ah bon, d'accord, ça va. Un tout grand merci.
Merci
Sabine,
vous.
Au revoir.
Au revoir. Et c'est terminé pour ce soir. Alors demain soir, je vous retrouve normalement à 23h, mais je le dis sur la pointe des pieds car il y aura du football avant. Et si jamais il y avait des tirs au but, sachez que nous laisserons une demi-heure de plus à l'équipe des sports. Je sais ce que vous allez me dire, mais c'est comme ça. Donc demain soir, 23h ou 23h30, d'ici là, passez une très bonne nuit et je vous quitte avec ma citation du jour. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Dormez bien et à demain.